OK, on continue notre étude sur le survol des 66 livres de la Bible. Ce soir, on va faire une introduction aux épîtres. Alors, on avait fini le livre des Actes, on commence maintenant les épîtres. Mais avant de commencer l'ensemble des épîtres, c'est comme une introduction à l'ensemble de cette catégorie de livres-là du Nouveau Testament. Alors, sur les 27 livres du Nouveau Testament, 21 sont des lettres ou des épîtres, dont 13 et peut-être même 14, si on considère qu'Hébreux aurait été écrit par Paul, pour répondre à des besoins particuliers de personnes ou de communautés. Elles apportent une incomparable contribution à la plénitude des Saintes Écritures. Sans aucun doute, c'est grâce à la providence souveraine de Dieu que tant de vérités révélées nous sont parvenues sous cette forme dans un contexte historique. L'homme, dont les lettres tiennent une si grande place dans le Nouveau Testament, était un citoyen romain, né libre, juif de Tarse, hébreu parmi les Hébreux, élevé au pied de Gamaliel, mais devenu esclave et missionnaire de Jésus-Christ. Il se présente lui-même ainsi. « Le Seigneur l'appelle un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Son caractère si riche se révèle dans ses lettres et dans les actes. Une forte volonté dans un corps débile. Zélé pour la loi, avant de l'être pour l'Évangile, infatigable, prêt à vivre et à mourir pour le Christ, incontestablement un juif, se glorifiant des Écritures, des patriarches et des promesses, mais aussi apôtre des gentils et fier de son ministère. Paul était intensément humain. Ses sentiments de tendre affection ne connaissent pas de barrières raciales ou sociales. Il traitait de la même façon ses compatriotes juifs et ses convertis païens. Onésime, l'esclave et Philémon, son maître. Ces lettres contiennent des appréciations pleines d'amour sur chacun de ses compagnons. Ce qui le qualifiait surtout pour devenir un évangéliste et un maître, c'était la grâce et l'appel de Dieu, comme il le savait bien lui-même. C'était la source de ses œuvres nombreuses et fécondes. Il a mis dans ses lettres les trésors de son expérience et nous y trouvons les signes de la grâce divine. Alors, le premier point qu'on va regarder, c'est le genre épistolaire, autrement dit, le genre des lettres. Aucun livre de l'Ancien Testament n'a été rédigé sous forme de lettres, alors que les trois quarts des livres du Nouveau Testament, 21 sur 27, sont des épîtres. Le recours à la forme épistolaire comme moyen privilégié de révélation dans la Nouvelle Alliance, souligne toute la différence entre le régime de la loi et celui de la grâce. Sous la dispensation légale, les exigences de Dieu étaient consignées sous forme de documents juridiques marqués du sceau de l'autorité divine. Au temps de la grâce, Dieu fait connaître sa volonté à ses enfants au moyen de lettres affectueuses, par des instructions et des exhortations. L'usage de la lettre comme moyen de communication entre un homme et un groupe social a été préparé sur le plan historique par divers facteurs, au moins trois. Premier facteur, la correspondance entre des villes éloignées s'est généralisée à partir du 3e siècle avant Jésus-Christ. Elle s'est imposée pour maintenir le contact entre les différentes parties du vaste empire d'Alexandre, puis de l'Empire romain. Ce besoin a donné naissance à un corps de scribes versés dans la rédaction de lettres. Deuxièmement, au cours du 1er siècle avant Jésus-Christ, on a vu naître un genre littéraire nouveau, la lettre ouverte, s'adressant à un large public. Il fut utilisé, entre autres, comme moyen de propagande par l'autorité romaine. Troisièmement, des auteurs latins ont popularisé ce genre. On a retrouvé, par exemple, 931 lettres de Cicéron, adressées en partie à un vaste public ou à des personnages fictifs. D'autres auteurs ont exposé, sous la fiction d'une lettre à une personne ou à une collectivité précise, leurs pensées philosophiques ou religieuses au public. Deuxième point qu'on va regarder, des écrits de circonstances réelles et historiques. Les épîtres du Nouveau Testament sont toujours des écrits de circonstances réelles, nés dans un contexte historique donné. Elles s'adressent à des destinataires bien précis pour répondre à des questions posées, corriger des erreurs, redresser des torts, exhorter, avertir, louer ou tenser des gens que Paul connaissait ou dont on lui avait parlé. Néanmoins, les rédacteurs de ces épîtres ont conscience de donner dans ces lettres un enseignement dont la portée dépasse la circonstance et les destinataires immédiats. Ils supposent qu'elles seront lues dans toutes les communautés de la ville ou de la province, et même qu'elles circuleront d'une église à l'autre. Entre une épître aux Galates, qui semble jaillie d'un trait du cœur passionné de l'apôtre, et une épître aux Éphésiens, longuement méditée et ciselée dans le silence de sa résidence forcée, il y a place pour toute la gamme de genres s'échelonnant entre la lettre et l'épître. La plupart des lettres de l'Antiquité étaient courtes. Les lettres privées contenaient en moyenne une centaine de mots. Les lettres littéraires étaient de longueur double, 150 à 250 mots, pouvant tenir sur une seule feuille de papyrus. Les lettres de Paul sont toutes plus longues, de 335 à Philémon à 7101 mots dans Romains. L'apôtre a donc inventé un nouveau genre littéraire, l'essai théologique à forme épistolaire, adressé à un auditoire précis, chargé éventuellement de sa diffusion à un public plus vaste. Les épîtres les plus anciennes sont antérieures aux Évangiles, puisque Paul écrivit les lettres aux Thessaloniciens vers l'an 50 de notre ère. Les épîtres sont des messages écrits par les apôtres ou ayant reçu la sanction apostolique. Elles sont adressées soit à des églises particulières et traitent de questions doctrinales et pratiques, soit à des individus, mais expose cependant des sujets de grande importance, ou bien aux chrétiens en général, non à une seule personne, ni à une seule église. Excepté l'épître aux Hébreux et la première épître de Jean, les épîtres, selon la coutume de l'époque, commencent par le nom ou le titre de l'auteur, suivi de celui du destinataire, individu ou église, et des salutations. Troisième point qu'on va regarder, c'est les classifications des épîtres. On a divisé les épîtres en trois groupes, mais cette classification n'a rien d'absolu et n'exclut nullement un mode de faire différent impliquant la transportation de certaines épîtres dans un autre groupe. Alors, les épîtres, premièrement, pauliniennes, donc les épîtres de Paul. Les 13 premières lettres débutent par l'affirmation que Paul lui-même les a expédiés, seul ou assisté de ses collaborateurs chrétiens, tels que Sostène, Timothée, Philémon ou Sylvain et Timothée ensemble. Donc, une autre catégorie, c'est les épîtres qu'on appelle pastorales. Dans le groupe des épîtres pauliniennes figurent trois lettres dites pastorales, les deux épîtres à Timothée et l'épître à Tite. Leurs destinataires sont les personnes dont ils portent le nom. Ces lettres donnent des instructions concernant l'organisation et l'administration des églises. Elles indiquent aussi la façon de résoudre les problèmes individuels des membres de l'Église. Et la troisième catégorie, ce sont les épîtres universelles ou catholiques. Cinq épîtres ont une portée générale, celle de Jacques, les deux de Pierre, la première de Jean et celle de Jude. Mais l'Église primitive désignait par le terme de catholique sept épîtres, les cinq mentionnées ci-dessus, plus la deuxième et la troisième de Jean. Quoique ces deux dernières ne soient adressées qu'à de simples individus. Le mot catholique était employé dans son sens primitif d'universel pour désigner une circulaire adressée à toutes les congrégations. La dame élue et l'ancien Gaius, destinataire de la deuxième et de la troisième épître de Jean, représentent probablement l'Église dans son ensemble. Quatrième point qu'on va regarder, c'est la forme épistolaire. La forme épistolaire n'était pas un simple procédé littéraire choisi parce que convenant à un exposé doctrinal. La plupart des épîtres ont été rédigées à la façon des lettres ordinaires. Elles émanent de circonstances personnelles et de l'initiative de l'auteur. Elles ont été écrites pour répondre à des lettres ou sur la base de renseignements venus d'ailleurs pour résoudre les problèmes de certaines églises. Mais elles conviennent à quiconque se trouve dans des circonstances analogues. Paul demandait que certaines de ses lettres soient lues par d'autres personnes que le destinataire dont elles portaient le nom. Les apôtres ont déclaré que leurs épîtres sont la parole même de Dieu. Dès le début de l'ère chrétienne, elles ont été élevées au même rang que les autres écrits sacrés. En 68 après Jésus-Christ, Pierre dit que les épîtres de Paul font partie des Écritures. Polycarpe cite en même temps les psaumes et l'épître aux Éphésiens comme appartenant à l'Écriture sainte. Les titres des épîtres ne figuraient pas dans la rédaction originale. On les a ajoutés plus tard. Ils manquent dans les premiers manuscrits et ne font point partie du texte inspiré. La plupart de ces titres sont tirés du premier verset de l'épître. Cinquième point, on regarde les épîtres de Paul. Les épîtres de Paul ont généralement la même structure, adresse et vœux lorsqu'il dit grâce et paix, combinant la salutation grecque et la salutation juive, suivi généralement de la mention des actions de grâce pour l'œuvre accomplie par Dieu chez les destinataires et des prières de Paul pour leur progrès spirituel, remplaçant les souhaits habituels de bonheur et de bonne santé trouvés dans les lettres contemporaines. Le corps de la lettre varie suivant le sujet, mais souvent, la première partie a un caractère plus dogmatique, la seconde est plus pratique, par exemple dans Romains, dans Éphésiens, dans Colossiens et dans Thessaloniciens. Le nombre de verbes à l'impératif augmente du début à la fin. Dans la conclusion, nous trouvons des salutations plus ou moins longues, des vœux, souvent d'ultimes recommandations et une formule de bénédiction, parfois des salutations personnelles et un autographe. Certaines lettres semblent avoir été écrites par l'apôtre lui-même. Dans d'autres cas, il ajoute seulement un post-scriptum de sa main en avertissant les lecteurs qui ne connaissent pas son écriture. Pour le reste, Paul s'est servi entièrement d'un secrétaire. Pourquoi l'apôtre n'a-t-il pas toujours écrit lui-même ses lettres? Diverses hypothèses ont été avancées. Une vue défectueuse, des doigts trop malhabiles abîmés par le rude travail du tissage des tentes, difficulté de l'écriture sur papyrus exigeant une grande habitude. La raison ne nous est donnée nulle part. Nous pourrions la trouver dans la conception que Paul avait de la diversité des dons dans le corps de Christ. Il existait dans son équipe et dans les églises où il séjournait des frères ayant le don d'écrire, ayant peut-être reçu la formation professionnelle pour le métier de scribe, il pouvait mettre ce don au service de Dieu et soulager Paul. L'écriture sur papyrus était un travail assez difficile. On connaissait même une sorte de sténographie dans l'Antiquité. Le secrétaire prenait note des paroles de son maître et rédigeait ensuite sa lettre à loisir. L'habitude de la dictée nous explique pourquoi les épîtres pauliniennes sont plutôt des discours que des lettres. Sixième point qu'on va regarder, c'est les épîtres que l'on qualifie de catholiques ou universelles. Le recueil des lettres de Paul constitua la première ébauche du Nouveau Testament. Plus tard, on y ajouta les épîtres catholiques ou générales de Jacques, Pierre, Jean, Jude et l'épître aux Hébreux, classés souvent avec les lettres de Paul. Ce nom de catholique leur fut donné dès la fin du IIe siècle. Origène est le premier à utiliser ce qualificatif. La plupart d'entre elles ne s'adressent pas à des communautés particulières, mais à l'ensemble des chrétiens. Seule la première lettre de Pierre porte une description géographique, mais si large qu'on peut considérer l'écrit comme une sorte d'encyclique semblable à celle que les apôtres ont adressée aux chrétiens après leur rencontre à Jérusalem. D'ailleurs, les questions abordées dans ces lettres intéressent tous les chrétiens. La conduite dans la vie de tous les jours, la lutte contre les fausses doctrines, l'attitude devant la persécution, l'espérance du retour du Seigneur. Généralement, ces épîtres sont encore moins connues que celles de Paul. Leur mode de pensée, leur manière de s'exprimer, la vie et les problèmes de leur destinataire, tout nous paraît au premier abord bien différent de ce que nous connaissons. Vu de plus près, ces missives nous apporte un témoignage précieux sur les églises nées en dehors du sillage de l'apôtre Paul et sur la vie des chrétiens vers la fin du premier siècle. Sans elles, nous pourrions avoir l'impression que l'Église chrétienne tout entière fut la création du grand apôtre des païens. Grâce à elles, nous avons une idée plus juste, plus complète de la merveilleuse unité dans la diversité au sein de l'ensemble des communautés du Christ. Cependant, ce témoignage historique, si précieux qu'il soit, ne constitue qu'un intérêt accessoire de ces épîtres. Leur valeur principale réside dans le message permanent qu'elles nous transmettent, un message du Dieu vivant aux hommes de tous les temps. Leurs rédacteurs ont été des prophètes, c'est-à-dire des porte-paroles de Dieu, pour le présent autant que pour l'avenir. Septième point, on regarde que les épîtres sont inspirées de Dieu. L'apôtre Pierre nous dit que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. En répondant aux besoins et aux problèmes de leurs contemporains, le Saint-Esprit qui les inspirait donnait dans ses écrits de circonstances aux chrétiens de tous les temps des enseignements, des exhortations et des conseils. Ces épîtres constituent un complément indispensable aux lettres de Paul. En effet, nulle part dans les épîtres de Paul, nous ne trouvons de développement détaillé sur le sacerdoce actuel du Christ, sur l'attitude des chrétiens dans la persécution, sur l'expansion du règne de Dieu et ses incidences sur l'histoire du monde. D'autre part, la manière dont Jacques voit le rapport entre la foi et les œuvres, celle dont Jean envisage les relations entre la foi en Christ, la marche dans la lumière et l'amour des frères, ouvre pour nous de nouvelles perspectives. Les fausses doctrines combattues dans ses écrits offrent certes des ressemblances avec celles que Paul rencontrait, mais elles se sont développées, diversifiées et divisées en groupes distincts attaquant l'Église de différents côtés. Leur évolution est très instructive pour nous. Dans ses écrits, datant généralement d'un stade plus avancé de développement de l'Église, nous apprenons quelles directives Dieu donne à ses enfants qui vivent dans une communauté chrétienne menacée, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, au sein d'un monde offrant plus d'une analogie avec le nôtre. Et huitième point, problème des épîtres semblables aux nôtres. La société dans laquelle est née l'Église ressemblait en bien des points à la nôtre. C'était une société d'abondance. Les empereurs Auguste et Vespasien avaient fait régner la prospérité. La paix romaine assurait la sécurité et le bien-être. L'Empire romain, qui couvrait l'essentiel du monde civilisé, était politiquement bien organisé. Des lois relativement équitables pour l'époque et un gouvernement puissant faisant respecter la justice et les droits des individus. La pensée religieuse et philosophique était caractérisée comme notre pensée contemporaine par le pluralisme d'innombrables religions, grecques, romaines, orientales et diverses philosophies, platonisme, stoïcisme, épicurisme, proposaient à ceux qui cherchaient la vérité des solutions contradictoires. Ces chercheurs, toutefois, étaient de moins en moins nombreux. La prospérité matérielle et la multiplicité même des systèmes philosophiques et religieux engendraient, chez la plupart des citoyens de l'Empire, une indifférence toujours croissante en même temps qu'une désaffection progressive des lieux de culte. Dans les églises elles-mêmes, où les adeptes des fausses doctrines avaient réussi à s'insinuer et à propager leurs erreurs, le désarroi et la lassitude avaient gagné beaucoup de chrétiens. Ils se demandaient comment distinguer la vérité de l'erreur, comment faire face aux faux docteurs sans renier les devoirs de la charité. Qu'est-ce qui est essentiel? Des moqueurs raillaient ceux qui attendaient fidèlement le retour du Christ. D'autre part, la persécution émanant des autorités, même auxquelles Paul avait recommandé de se soumettre, faisait naître une situation nouvelle et causait bien des perplexités parmi les fidèles. Le triomphe apparent du mal suscitait des questions troublantes sur l'avenir du royaume de Dieu. À toutes ces questions, qui sont aussi celles des doctrines de notre temps, le Seigneur a répondu par des messages inspirés de ses épîtres générales. Alors, le point 9, ce que j'ai fait, je vous ai mis en forme de tableau les épîtres de Paul avec les dates sur lesquelles ils ont été écrits et lors du premier, deuxième, troisième et quatrième voyage missionnaire de Paul. Et dans l'autre tableau, vous avez l'ensemble des épîtres avec le nombre de chapitres, les thèmes de chacun des livres, de chacune des lettres et les destinataires. Alors, ça donne une étude à peu près complète pour une introduction des lettres. Comme application, les apôtres, les épîtres nous ont été données pour mieux nous expliquer les évangiles et pour mieux nous faire comprendre la personne et l'œuvre de Christ. Étudions-les pour une meilleure marche chrétienne. Que l'Éternel soit adoré, béni et loué à tout jamais. Amen.